Bonjour et bienvenue dans la saison 4 du podcast À fleur de peau, le podcast qui t'aide à comprendre et à mieux vivre ta haute sensibilité. Merci à toi qui es fidèle et qui m'écoute depuis les débuts, et bienvenue à toi si tu me découvres tout juste. Pour faire les présentations en quelques mots, moi c'est Pascaline Michon, et après de multiples détours pour trouver ma voix, je suis à présent photographe et coach de vie. J'accompagne les femmes très sensibles afin qu'elles puissent se reconnecter à leur essence profonde et ainsi retrouver une vie qui a du sens et qu'elles ont pleinement choisie. Mais dans ce podcast, j'ai à cœur de faire connaître ce trait de la haute sensibilité au plus grand nombre. Donc si tu as envie d'y voir un petit peu plus clair sur ta façon de fonctionner, si tu cherches des réponses, eh bien tu es au bon endroit. Tu trouveras des épisodes solo, mais aussi des épisodes avec des invités qui sont là pour nous apporter leur expertise et aussi nous ouvrir un petit peu nos horizons. Et depuis janvier 2021, Saverio Tomasella, qui est un des experts reconnus en France sur le sujet, m'a fait l'honneur de devenir le parrain du podcast. On est donc amené à enregistrer régulièrement des épisodes ensemble. Le podcast est diffusé tous les 15 jours, le jeudi, dès 7h15, sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu apprécies le contenu, surtout, n'hésite pas à partager un maximum et à mettre plein de petites étoiles dans ton application d'écoute préférée. En attendant, je t'invite à t'installer confortablement, à prendre pleinement le temps de cette pause pour toi, et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast une de mes mentors, une femme qui m'inspire énormément depuis un certain temps déjà et avec qui je me suis formée l'année dernière. Mon invitée, c'est Audrey Acoun. Elle est experte en psychologie positive et en neurosciences. Elle est auteure, formatrice, thérapeute et coach. Et elle accompagne les personnes atypiques, notamment les femmes hautement sensibles. Aujourd'hui, on va s'intéresser ensemble à des thèmes que j'avais envie d'aborder depuis un moment et qui me semblent hyper importants quand on est hautement sensible, à savoir le leadership et la relation à l'argent. Bonjour Audrey.
Bonjour Pascaline.
Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast, c'est vraiment un plaisir.
Moi aussi.
On s'est retrouvés sur Instagram suite à un post que tu as fait et qui a fait un petit buzz, on va dire, autour du sujet de l'argent. Et on peut dire que tu fais pas toujours consensus quand tu mets des posts. Souvent, tu es cash, tu dis les choses telles quelles. Et du coup, c'était l'occasion d'aborder le sujet sur le podcast du leadership et de l'argent.
Ouais, mais c'est vrai. C'est à chaque fois sur mes réseaux sociaux, à chaque fois que je parle d'argent, ça déchaîne les passions. mais ça montre à quel point notre relation à l'argent, elle est complexe et à quel point chez certaines personnes, je pense même chez beaucoup de personnes, c'est très inflammatoire dès lors qu'on commence à parler même de richesse, à parler de gagner de l'argent et de gagner beaucoup d'argent. Et alors, je pense qu'on arrive au summum quand en plus on fait coexister et coïncider l'hypersensibilité et le fait de gagner de l'argent. Et alors encore pire quand on est thérapeute et quand on est dans l'accompagnement et dans le soin, gagner de l'argent en s'occupant et en accompagnant des personnes qui vont peut-être pas très bien dans leur vie, sont en situation de fragilité ou de mal-être. Alors là, ça devient carrément un gros mot.
Mais on aura l'occasion d'en reparler.
Et comme tu le dis, enfin moi je suis ravie que tu m'aies invitée pour parler de leadership aussi parce que enfin les deux sont vraiment liés. Hier voilà, j'en parlais et je disais que notre relation à l'argent, c'est le reflet de notre relation à nous-mêmes. Et je pense qu'il est vraiment question de ça.
Ouais. Du coup, je t'ai présenté un petit peu rapidement. Tu es une femme très active. Tu as un CV long comme le bras. J'ai pas cité toutes tes casquettes, mais bon, tu en as pas mal.
Non.
Et tu te définis toi-même parfois comme un chihuahua cocaïnomane ascendant marmotte, ce qui me fait beaucoup rire. Et est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose pour te présenter un petit peu pour les personnes qui te connaîtraient pas?
Bah oui, alors je vais pas refaire mon CV long comme le bras comme tu le dis. On va dire que je suis une aventurière de la vie et que j'ai pas eu un parcours du tout pas linéaire du tout et complètement atypique. Je suis quand même par ailleurs maman de 4 enfants. De 12 ans à 27 ans, presque 28. J'ai tout fait tôt. Enfin, moi, j'étais précoce, donc j'ai fait tout tôt, tout tôt, voire même trop tôt pour certaines choses, je pense. Mais j'ai pas de regrets non plus parce que c'est mon parcours de vie. Et vraiment, j'ai à cœur, mais parce que ça vient de mes traumas aussi, hein, même si j'ai réglé plein de choses et pas tout, hein, mais j'ai guéri quand même beaucoup, beaucoup de blessures. J'ai vraiment à cœur, enfin moi mon truc c'est l'émancipation des femmes. Alors, je suis désolée pour les hommes qui nous écoutent, je n'ai rien de sectaire du tout contre les hommes, alors pas du tout, du tout. C'est juste un constat, c'est que 99% de ma clientèle ce sont des femmes principalement, et je pense que ça vient de mon histoire. Et de ma mission qui est d'aider cette émancipation, mais qui est à la fois une émancipation psychologique et une émancipation aussi financière, d'indépendance. Moi, j'ai vécu dans une famille avec une maman qui était complètement sous emprise et complètement dépendante. J'ai vécu moi-même des violences conjugales très graves, enfin des choses où voilà, où être une femme était un peu compliqué dans cette société-là, être une femme hautement sensible et au potentiel encore plus compliqué. Et donc ça fait des années que d'une manière ou d'une autre je travaille, enfin je me lève le matin pour ça. Donc ça prend la forme, comme tu l'as dit, de livres, de consultations, de formations, de coaching. Tous les moyens sont bons pour éveiller les consciences et pour redonner de la puissance aux femmes.
Un super programme.
Ouais.
Je t'ai invitée aujourd'hui, Audrey, donc pour qu'on évoque ensemble le leadership hypersensible et la relation qu'on peut entretenir avec l'argent, du coup, notamment quand on est un ou une entrepreneur hypersensible, mais on verra que ça ne se manifeste pas que dans ce domaine-là. Pour commencer, j'aimerais bien que tu nous donnes, toi, ta propre définition du leadership.
Alors ma définition du leadership, en fait enfin je distingue deux leaderships. Il y a le leadership tel qu'on l'entend, c'est-à-dire le fait de pouvoir diriger un groupe, une équipe, et plus que diriger. Alors justement, je trouve que ce qui est bien et beau dans la notion du leadership, c'est le fait de, en effet, emporter avec soi une équipe ou un collectif vers un but, vers une mission. Pas en exerçant la force, en imposant les choses et en jouant sur le management de la terreur, mais en emportant l'adhésion, en inspirant les gens, en donnant en fait envie aux gens de nous suivre sur un projet, parce qu'on a une vision, parce que notre vision les inspire, parce qu'ils se sentent en sécurité, parce que ils suivent quelqu'un qui est très ancré, qui a une vision très très claire des choses et qui sait comment les y emmener, et avec une confiance qui règne. Donc ça c'est, et je trouve que cette définition du leadership, enfin c'est celle qui devrait prévaloir dans le monde du management et des dirigeants aujourd'hui. Malheureusement, on a beau beaucoup en parler, on se rend compte encore que aujourd'hui, majoritairement, les techniques de management et les dirigeants sont quand même encore dans un système très très même très patriarcal, on va dire, très à l'ancienne, où voilà, on impose des choses, ou alors pire que ça, moi je trouve, et ça je trouve c'est encore plus cynique et encore plus pire, où on fait croire aux gens qu'ils choisissent, mais en fait c'est de la manipulation et on leur fait croire qu'ils choisissent, donc il y a beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça. Mais finalement, ils choisissent rien du tout et on leur impose et ils n'ont pas trop le choix d'y aller. Heureusement, voilà, aujourd'hui, il y a ce leadership qui essaye de s'infiltrer comme ça dans les organisations, porté par des gens, des hommes, des femmes, vraiment qui ont cette lumière-là et qui ne font pas les choses, en tout cas, c'est juste parce qu'ils sont. Voilà. Ça m'amène donc à cette deuxième définition du leadership, qui est le leadership personnel, qui est que, à mon sens, que ce soit dans notre vie ou dans notre vie professionnelle, se donner à soi-même une direction, se donner l'envie de se suivre soi-même, c'est-à-dire se faire confiance, bah, ça demande, voilà, de restaurer une estime de soi, ça demande d'affiner une vision, ça demande d'affiner sa mission, d'aller chercher vraiment ce qui nous fait nous lever le matin. Ça se raccroche à notre ikigai aussi, donc philosophie japonaise, donc de trouver cette raison de se lever le matin. Et ça demande un vrai travail d'estime de soi, de confiance en soi, d'ancrage, de vision pour se donner envie d'avancer, parce que la vie, c'est pas le monde des bisounours, loin de
Non.
là. C'est même plutôt chaotique. On est confronté à des situations qui sont vraiment complexes. Et je trouve que avoir du leadership pour soi-même, c'est vraiment travailler ces leviers-là pour pouvoir avancer dans un monde qui est chaotique, pour pouvoir affronter des choses qui sont vraiment difficiles et pouvoir aussi s'épanouir, expanser, évoluer. Et je pense que quand on est sur cette voie-là et quand on est sur la voie de retrouver son leadership, donc c'est ce qu'on pourrait dire la puissance intérieure finalement en
Oui.
français, parce que leadership c'est de l'anglais,
Oui.
mais en français, voilà, je pense que ce qui se rapprocherait le plus de ça, c'est vraiment une espèce de guidance. De guider, donc d'être un guide pour les autres, d'être un guide pour soi-même, donc de guidance personnelle et de puissance personnelle qui fait que à la fois bah, nous on peut évoluer, on peut fleurir, on peut envisager des projets et se sentir vraiment avancé dans notre vie, mais en étant comme ça, on va inspirer les autres et on va leur donner envie de nous suivre aussi. Donc du coup les deux leaderships se rejoignent. Mais ça repose forcément sur des personnes qui travaillent sur elles, en fait. Moi, je pense qu'il peut pas y avoir de leadership, en tout cas de leadership positif, et de puissance personnelle, si on peut pas inspirer les gens, si on travaille pas sur soi. On peut pas leur donner envie de nous suivre si on a tellement de blessures d'ego et qu'on est tellement pas à l'aise dans nos baskets, qu'on veut imposer notre truc, qu'on joue des jeux de pouvoir et de manipulation. Ça donne pas envie, hein, tout ça. Pas du
Non,
tout.
c'est sûr, ça marchera un temps, mais pas toujours.
Non.
Personnellement, moi, je t'ai découverte, Audrey, dans le magazine Psychologie Positive. Et
Ah
je sais pas pourquoi, en lisant tes chroniques, j'ai tout de suite trouvé que tu dégageais quelque chose. Enfin, en tout cas, genre, je te voyais pas. C'était un magazine sur une page, une photo. Mais en tout cas, tes chroniques m'inspiraient. J'ai perçu chez toi une énergie positive qui émanait de toi. Et je me suis dit, ça, c'est une personne que j'ai envie de suivre, en fait. Et j'ai toujours su qu'un jour, je me formerai avec toi, même si ça a mis un petit peu de temps avant que ça se concrétise. Est-ce qu'on peut dire que déjà à l'époque, tu faisais preuve de leadership, d'un certain leadership? Et est-ce que, selon toi, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi, cette posture de leader, en fait? De leader inspirante même.
Alors, de leader peut-être, de leader inspirante peut-être pas tout le temps. Je rigole. Je pense que ça fait longtemps, en fait. Je pense que ça fait longtemps, mais sans le vouloir. Je me suis pas réveillée un matin en me disant, moi, ce que je veux dans ma vie, c'est être leader. Je ne suis pas du tout dit ça. C'était pas un objectif de vie d'être leader. Déjà, je voulais m'en sortir moi-même, mais je pense qu'en fait, cette position de leader, alors déjà, je pense qu'elle a commencé très très tôt dans mon enfance, mais par nécessité. C'est-à-dire que je viens d'une famille très dysfonctionnelle, avec un fonctionnement, enfin vraiment très toxique. Enfin, avec un père qui a certaines parties extraordinaires en lui et d'autres parties très 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 toxiques et très violentes. Et je pense que très tôt, mais quand je dis très tôt, c'est peut-être vers 4-5 ans, je pense que j'ai dû développer un niveau d'ego à ce moment-là et de leadership à la hauteur du sien pour pouvoir protéger ma mère et mon petit frère. Parce que je sentais que ma mère et mon petit frère n'étaient peut-être pas aussi forts que moi ou n'avaient pas les mêmes ressources que moi, et je pense que je l'ai ressenti très très tôt, que moi j'étais la seule à pouvoir tenir tête à cette espèce de roc qui était mon père, enfin de rouleau compresseur à certains égards, et qui pouvait vraiment d'un regard nous laminer complètement, plus les violences, plus l'insécurité, plus beaucoup de choses. Et donc je pense que j'ai développé malgré moi ça quand j'étais petite. En même temps que mon hypersensibilité et mon haut potentiel dont j'étais pas du tout au courant et qui faisait une espèce de mélange un peu bizarre, et je pense que c'est l'essence finalement de mon leadership, que ça vient là, c'est d'avoir peut-être ces ressources de résilience, de tenir tête et d'élever cet ego à la hauteur de ce père tout-puissant finalement, mais qui m'a permis finalement de pas devenir moi-même toute puissante. parce que j'avais cette hypersensibilité-là et cette bienveillance et cette empathie vis-à-vis des gens et le besoin d'être aimé et le besoin d'être en lien qui a fait que je n'ai pas développé non plus un ego surdimensionné de toute puissance à vouloir après être la maîtresse du monde et à vouloir écraser les autres. Mais au contraire, moi, ce que je voulais, la seule chose que je voulais quand j'étais enfant, c'était être en lien avec les autres et être aimée. Et donc, j'ai été un peu entre ces deux eaux-là, c'est-à-dire que à la maison, j'étais très, très forte. Et en dehors de la maison, c'est comme si je pouvais baisser un peu les armes. Et en fait, j'étais au contraire très dans l'écoute et dans l'empathie et dans la sensibilité et dans tout ça. Et ben, j'étais un peu compartimentée comme ça pendant des années. J'ai eu beaucoup de problèmes d'estime de moi, de confiance en moi, alors même que je réussissais énormément dans tout ce que je faisais. C'est-à-dire qu'à l'école, je faisais partie des performants. Des enfants performants, tout en trouvant que l'école était complètement débile et nulle et que ça servait à rien, que je comprenais pas pourquoi j'étais là. Mais on m'avait demandé d'être performante, donc j'étais performante parce que j'avais peur en fait des sanctions surtout.
Ouais, je
Donc
comprends.
c'est non mais tu vois, donc c'est cette éducation en plus aussi au bâton et à la sanction et à la menace qui fait que bon bah, je me suis dit ouais non bah c'est bien d'être performante à l'école, alors comme ça on est un peu plus tranquille à la maison. Et puis c'était valorisant aussi. Et malgré ça, je suis arrivée à l'adolescence avec une très faible estime de moi. Je pense que, ben, je pense que ce leadership-là, à cet endroit-là et à cette époque-là, il était quand même au fond des chaussettes parce que quand on grandit quand même dans un climat où il y a de l'abus à tous les étages, même si dans ma famille c'était pas de l'abus sexuel, mais c'était de l'abus psychique et, ben, voilà. Je pense qu'après, il y a écrit un peu sur notre front, venez abuser de moi. Donc en fait, j'étais plutôt même un peu harcelée quand j'étais au collège. Et à la fois, j'étais un peu schizo, enfin pas une vraie schizophrène, mais un peu clivée à l'intérieur de moi parce que comme je réussissais beaucoup, et en fait, ce qui était bizarre, c'était que par exemple, tous les parents de mes amis me donnaient en exemple à leurs enfants, ce qui était hyper chiant parce que forcément, toi, t'as pas du tout envie de ça. Tu
Ouais,
vas être comme les
j'imagine.
autres. Tu vas être comme les autres et pas mieux que les autres. Et les parents de tes amis te donnent tout le temps un exemple et disent, mais voilà, tu devrais prendre exemple sur Audrey, tu devrais faire comme Audrey. J'étais la première de la classe, donc les profs me mettaient comme leader, en position de leader pour aller tirer les autres vers le haut. Donc en fait, je pense que pendant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai été mise à une position de leader malgré moi, alors que moi, je voulais l'inverse. Je voulais qu'on me laisse tranquille, je voulais être juste gentille avec les gens et être douce et vivre avec des petits animaux et des fleurs et des petits trucs mignons. Bon, c'était pas le cas. Et après, bah, là où j'ai commencé à devenir leader, c'est quand bah, ce qui m'est arrivé quand j'avais 19-20 ans, où là, pour le coup, j'ai subi vraiment des violences conjugales. Je me suis mariée très jeune, je suis tombée enceinte très très jeune. J'ai vécu des violences conjugales très graves pendant toute une grossesse. Donc j'ai été battue pendant toute ma grossesse jusqu'à ce que je sois poussée d'un haut des escaliers. Quand j'étais enceinte de 7 mois, j'ai failli perdre mon bébé, enfin j'ai failli mourir surtout. Et à l'issue de cet épisode-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que c'est l'instinct de survie, mais je pense que c'est aussi le fait d'avoir un enfant, d'avoir un bébé. J'étais plus toute seule et j'avais la responsabilité, j'ai eu cette conscience-là vraiment, pourtant j'étais jeune, mais que j'avais la responsabilité d'un petit bébé qui n'avait rien demandé, lui. Et je pense que ça m'a donné un sursaut de survie, d'instinct de survie, déjà de partir et de m'enfuir de ce mari complètement violent, de porter plainte, de retrouver ma liberté et de voilà et de commencer à essayer de faire ma vie avec mon fils. Et je pense que ça a été le point de départ de la psychothérapie pour moi. Moi, j'avais jamais vu un psy de ma vie avant, alors que j'en aurais eu bien besoin vu tout ce que j'ai traversé quand j'étais enfant et ado. Mais c'était la première fois du coup que j'allais voir un psy et j'ai entamé ce travail-là. Et en fait, c'est en entamant ce travail où moi je pensais que j'étais détruite complètement, et c'est vraiment l'histoire que je me racontais. Je me disais, en plus je culpabilisais, je me disais mais comment t'as pu te mettre dans cette situation-là, et les femmes battues et la honte, et mère célibataire, tu te retrouves, enfin la défaite quoi. Genre j'avais cette conscience-là de me dire, mais tu te rends compte que genre il y a un an t'étais en haut de la pyramide, T'avais eu ton bac avec mention, tout le monde t'admirait, enfin, toutes les portes étaient ouvertes. Et là, c'est la déchéance. Tu fais pas, enfin, t'as arrêté les études, tu te retrouves mère célibataire à 20 ans, femme battue. Enfin bon, genre le tableau, genre les faits divers, quoi, le truc super. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et je racontais ça à mon psy à l'époque, et mon psy de l'époque m'a raconté une autre histoire et m'a dit, mais je pense que, parce que je lui ai raconté toute ma vie, du coup, il m'a dit, mais je pense que vous ne vous rendez pas compte, en fait, la force que vous avez en vous pour en être arrivée là et être vivante et être aussi avec une telle joie qui se dégage de vous, parce que malgré ça, je pense que j'ai toujours gardé la joie quand même. Et il me dit, mais vous vous rendez pas compte la force qui se dégage de vous. Et je pense que c'est lui qui a posé le mot de leader. Il l'a peut-être pas dit comme ça, mais il a dit, il y a quelque chose en vous qui fera de grandes choses enfin, il m'avait fait un peu comme une prophétie de genre, vous inspirerez beaucoup de gens dans votre vie, parce que j'ai rarement vu à 20 ans aussi jeune quelqu'un qui a activé autant de ressources, et votre parcours est déjà très inspirant. J'avais 20 ans.
D'accord.
Et donc c'est là que je me suis dit, ok, j'avais toujours pas comme projet d'être leader, hein, toujours pas, mais je me suis dit, quand même, il y a quelque chose qui fait que je voudrais tellement éviter à d'autres femmes et à d'autres jeunes filles et à d'autres jeunes femmes de vivre ce que j'ai vécu. En travaillant sur moi de plus en plus, en allant vraiment regarder du côté des traumas, du côté de ma famille, de comprendre en fait le berceau de tout ça, de comprendre comment j'avais pu en arriver là, ça m'a donné envie, enfin, ça m'a fait comprendre vraiment que j'avais un rôle à jouer dans ça. Alors au début, ça n'a pas pris la forme de psy, d'être psy ou coach ou accompagnante, ça a pris la forme du droit. Moi, je voulais être avocate pour défendre les femmes victimes de violences conjugales, ou je voulais être commissaire de police pour mettre en prison. Voilà. Et donc, j'ai fait 7 ans de droit. Et après, et entre-temps, j'ai refait des enfants et je me suis remariée. Enfin, j'ai refait des enfants. Et donc, ces projets-là, c'était plus trop possible dans mes croyances avec des enfants en bas âge, de devenir commissaire de police. Enfin, voilà. C'était pas compatible avec une vie de famille nombreuse. Et bref, c'est là que je me suis reconvertie. Donc à 25 ans, je me suis reconvertie, mais toujours avec la même mission, en fait, c'est-à-dire de guider vraiment des femmes et d'aider des femmes, et ben, à retrouver leur puissance, en fait, à se libérer de situations douloureuses, quelles qu'elles soient, et à retrouver leur puissance, à retrouver leur estime d'elles-mêmes, à retrouver confiance en elles pour tracer leur route, pour faire de grandes choses. Moi, je suis persuadée qu'on a tous quelque chose à faire sur cette terre, on a tous une mission, et que c'est notre histoire qui fait qu'on s'ajoute des couches et des couches et des couches comme ça de manque de confiance en soi, de croyances complètement limitantes, d'étiquettes négatives sur nous-mêmes, et qu'on finit par y croire vraiment, alors qu'on a tous en soi, en nous, vraiment des pépites qui demandent qu'à jaillir. Après, est-ce que tout le monde peut être leader? Je suis pas sûre. Non, franchement, je pense pas. Et il y a aucun jugement de valeur là-dedans. Je pense que, parce que d'un autre côté, leader, ça, je l'ai appris là dans les dernières années. Enfin, ça fait longtemps maintenant. Être leader, c'est assorti de beaucoup aussi de responsabilités. Et tout le monde n'a pas envie d'endosser ces responsabilités-là.
C'est
Et c'est
sûr.
OK. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement de valeur de genre, les leaders, on sort complètement du schéma, il y a les maîtres du monde, et donc il y a ceux qui dirigent, et puis après, il y a le peuple, et il y a les suiveurs. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans une co-construction. En tout cas, moi, le leadership tel que je le vois, et tel que je le vois à la touche hypersensible, parce que c'est ce que je suis. J'en reste pas moins, même si j'ai avancé sur mon chemin, j'en reste pas moins hypersensible. Et pour moi, le leadership à la sauce hypersensible, c'est une co-construction avec les autres, où peut-être qu'il y en a un ou une qui donne en effet des impulsions, qui rassure, qui inspire, mais il faut bien que les autres aussi, ça se fait pas tout seul. Sinon, on est tout seul, et un leader seul, ça n'existe pas, en
C'est
fait.
ça.
Un leader, c'est forcément avec les autres, et dans le but de poursuivre aussi un objectif qui nous dépasse, quelque chose qui est un peu plus grand que justement que nous, que notre simple ego ou que le simple genre plaisir de diriger. Enfin,
C'est
je sais
ça.
pas si c'est un plaisir de diriger d'ailleurs.
Non, je pense pas. Ah, c'est juste, ouais. Là. Et on a tous un petit peu, enfin, quand on est atypique, ce besoin quelque part de contribuer à un monde meilleur. Donc, je pense que ça
C'est
se
ça.
situe là aussi, ouais.
Moi, je pense que ça se situe vraiment dans cette contribution et ça se rapproche de la, enfin, moi, de ma notion de richesse et de la, enfin, on en parlera tout à l'heure avec l'argent, tu vois, mais ce truc de la richesse, c'est vraiment créer plus de richesse dans sa vie, donc pour soi-même, mais aussi pour le monde, parce que sinon, ça ne sert à rien. Enfin, c'est, on n'est pas là juste pour nous. Enfin, c'est ça le, enfin, je me dis que, quelles que soient nos croyances, mais quand même, il y a quand même quelque chose qui nous dépasse et qui est plus grand que nous. Si juste l'objectif, c'est que notre plaisir, la satisfaction de notre plaisir personnel dans le laps de temps qu'on est sur Terre, ça n'a aucun intérêt, quoi.
Non,
Enfin, moi,
c'est sûr.
je pense que ça n'a aucun intérêt. Donc, ça vient s'inscrire dans de la contribution et de la contribution au monde. Et c'est un leadership qui est en lien, en fait. C'est d'être en lien avec les autres, mais faut, enfin, voilà, moi, ce dont j'ai pris conscience et qui parfois est un peu pesant quand même, c'est que une fois en revanche qu'on assume d'être dans la position de leader par rapport aux autres, avec les autres, c'est assorti de, en effet, de cette responsabilité-là. Et c'est là que souvent, moi, c'est ce que je vois, c'est que souvent, beaucoup d'hypersensibles veulent se mettre dans la position de leader. Mais parce qu'en fait, ils ont plus le syndrome du sauveur. Et donc, ils pensent que leader, en étant leader, je vais pouvoir sauver toute la planète. Et c'est une grande erreur. C'est une vraie erreur. Parce que on peut pas sauver les gens malgré eux. On peut sauver les gens que ceux qui ont envie d'avancer. On ne peut pas imposer aux gens. Enfin, le leadership n'impose pas. Le leader ne sauve personne. Le leader peut inspirer et donner l'impulsion et la motivation et la sécurité pour pouvoir avancer ensemble. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je me vis. Déjà dans ma vie professionnelle, c'est comme ça que je le vis. Que ça soit dans ma communication sur les réseaux, que ça soit avec mes clients quand je travaille avec mes clients, mais c'est jamais malgré que je le vois avec mon équipe. C'est-à-dire que le leader, je pense que les gens qui sont hyper contrôlants et qui ont besoin de hyper contrôler ne font pas de bons leaders.
Ouais, c'est sûr.
Parce que c'est antinomique, le leader, il instaure une relation de confiance, forcément. Donc moi, je le vois avec mon équipe. J'ai une équipe qui est, grâce au télétravail, à la visio et à Zoom, j'ai une équipe qui est complètement éclatée dans la France. Donc on n'est pas, il n'y en a aucune au même endroit. Vraiment. Et ça fonctionne très bien. Mais parce que ça marche aussi, ça repose sur la confiance. Moi, je donne l'impulsion, je donne mes envies, je dis voilà, je donne un peu la stratégie et la vision, je dis voilà, ça serait cool d'aller vers là, vers là, vers là. Et après, chacun fait sa part et ça fonctionne très très bien comme ça. Et j'ai pas besoin de vérifier toutes les 2 secondes si le travail a été fait, en fait.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est voilà. Donc ça, c'est le leader par rapport à l'autre et le leadership par rapport à soi-même, bah ça, j'ai envie de dire que c'est un travail de tous les jours qui n'est jamais terminé. C'est vraiment d'aller reconquérir ou restaurer, parce que reconquérir, c'est un peu belliqueux comme vocabulaire, la conquête, la reconquête, mais c'est plutôt moi je préfère la restauration, mais d'aller restaurer cette estime de soi, cette puissance personnelle qui passe par plein de trucs, hein. Donc je sais pas, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais qui passe par énormément de choses, bah c'est ça aussi, ce leadership personnel.
Ouais.
Et ça, c'est toute la vie, tous les
Toute la
jours.
vie, ouais. On n'a pas fini.
On n'est jamais arrivé de ce côté-là.
Non, c'est clair. Quand on pense au leadership, justement, on s'imagine mal que ça puisse être compatible avec une sensibilité exacerbée. Et pour beaucoup de personnes, t'en as parlé un petit peu, beaucoup de personnes s'imaginent qu'un leader, c'est quelqu'un qui exerce une forme de pouvoir. Et qu'est-ce que tu en penses justement par rapport à cette hypersensibilité? Est-ce qu'on peut être leader en étant hypersensible?
Alors déjà, à cette question-là, oui, oui, puisque j'en suis un exemple et que j'en connais plein d'autres. Je connais plein d'hypersensibles qui sont de super leaders et par rapport aux autres, hein, dans un collectif, mais qui sont aussi de super leaders d'eux-mêmes. En fait, on peut tous en revanche être leader de soi-même. Et d'ailleurs, c'est souhaitable d'être leader d'arriver à ça, d'arriver à plus de leadership pour soi-même. Donc oui, ça je pars du principe que tout le monde le peut et tous les hypersensibles le peuvent d'être déjà leader de soi-même. Est-ce que tous les hypersensibles peuvent être leaders dans un collectif? Oui, et je pense qu'ils sont configurés pour ça même. Je pense que et d'ailleurs à l'origine, dans la préhistoire, les hommes préhistoriques, les Homo sapiens sapiens, les premiers, les chefs, les leaders justement, les chefs de clan. Étaient les personnes les plus sensibles des clans et des tribus. Pourquoi? Parce que leur hypersensibilité leur permettait justement d'être en hypervigilance, donc d'être beaucoup plus attentifs aux dangers potentiels, donc de protéger beaucoup mieux le clan. Leur hypersensibilité leur conférait une intuition incroyable, qui faisait que c'était plutôt les sages, le sage du village, donc c'était eux les chefs. C'est eux qui donnaient l'impulsion, c'est eux qui donnaient la vision, ils sentaient les signaux faibles. Donc voilà, ils donnaient une direction, ils avaient une forme de sagesse qui fait qu'on les écoutait, qu'on avait envie de les suivre, on avait envie de les écouter. Et puis quand t'es arrivé, donc voilà, dans l'histoire avançant, et les premiers, je pense que c'est venu principalement avec la sédentarisation des gens, et donc l'instinct de propriété, donc le début des guerres de territoire. Entre clans, hein, je veux ta terre, je veux machin, je veux ta femme, je veux ton or, je veux ton... Que là, en fait, les chefs bah, sont devenus les chefs de guerre. C'est les chefs de guerre, donc ceux qui allaient hein, au combat, défendre le territoire, défendre leurs femmes, défendre leurs biens, qui ont pris la tête des clans et qui ont pris le pouvoir et qui ont relégué au rang des femmes, parce que c'est ça qui s'est passé. Justement tous les sensibles, bah les femmes en premier lieu, voilà, parce qu'il faut quand même se rappeler que dans l'histoire, la place des femmes à un moment donné, les femmes étaient des prêtresses, étaient des chefs de clan aussi, étaient voilà, c'était des dirigeantes et des dirigeantes. Et là, il y a un moment, il y a eu un revirement qui a fait que c'est plus la force, la virilité qui a pris le dessus, et donc on a rangé dans la case chochotte, sensible qui sert à rien, ben justement tous ces leaders qui étaient très 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 sensibles. Et c'est comme ça que ça s'est inversé, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une construction sociétale assez délirante, avec un système patriarcal complètement très toxique, hein, très toxique, qui est basé sur cette virilité, sur la démonstration de force, sur la guerre, sur les armes, sur la capacité à avoir de la stratégie militaire, c'est historiquement c'est ça en fait. Et après, bah, quand il y avait moins ces choses-là, il y en a encore hein, aujourd'hui, 2024, mais ça s'est transformé avec aussi la finance, avec tous les hauts postes et tous les postes de pouvoir, voilà, de pouvoir, de politique, avec la politique où il fait pas bon vivre quand on est honnête, intègre et sensible dans ces domaines-là pour accéder au pouvoir. Donc en fait, les plus virils et les plus forts sur le papier,
Sur le
hein,
papier,
en tout cas ceux qui faisaient la plus grande démonstration de force et avec le plus gros pouvoir de coercition aussi, ont pris les places stratégiques dans les organisations politiques et dans les pays, dans les étatiques et dans les organisations de travail. Et c'est ce qu'on voit, c'est que même les femmes, celles qui, alors de moins en moins, ça tend à évoluer, merci, on est en 2024, mais là, nous, notre génération, on a quand même, enfin notre génération, je ne sais pas qui nous écoute, mais moi je peux dire quel âge j'ai 47 ans. Donc ma génération, ben, on a connu le plafond de verre, et on a connu ces femmes qui sont à la tête dirigeante, qui ont pris tous les codes de la masculinité, tous les codes de la force, enfin de la coercition, tous les codes du pouvoir finalement, et qui sont à des années-lumière d'exprimer leur vulnérabilité ou leur sensibilité ou leur part féminine. Et oui, on le voit dans les entreprises aujourd'hui, dans les entreprises jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi les hypersensibles et les hauts potentiels morflent à fond la caisse dans les organisations de travail? Parce que trop d'intégrité, trop de envie de bien faire, trop de sincérité, trop de vulnérabilité, trop d'honnêteté, qui est cataloguée comme soit chuchoterie, t'es faible, t'es sensible, t'es machin, t'es bidule, donc on pense pas à toi, même si t'es hyper compétent et même si tu as une écoute extraordinaire, ben on pense pas à toi pour te faire monter dans la hiérarchie du tout. En plus, les hypersensibles, les atypiques vont être catalogués aussi comme bah, justement des personnes trop intègres, donc qui rentrent pas dans les petites magouilles de copinage et de jeux de pouvoir et de machin.
Non.
Donc en fait, ils se font couiller à chaque fois.
Ça.
Très souvent. Bah oui, très 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 souvent. Alors que les vrais leaders, justement, si on regarde les qualités pour être un bon leader, c'est l'empathie, l'écoute, d'être le baromètre, de créer du lien. Donc c'est l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, l'intuition, la vision, la créativité, l'innovation, qui sont les forces principales des hypersensibles. Donc naturellement, normalement, les hypersensibles sont des leaders nés, sont nés pour être leaders. C'est la société qui leur a fait croire qu'ils étaient trop sensibles pour l'être parce qu'on est dans un modèle de démonstration de force et de testostérone. Et qu'ils ont fini par le croire. C'est ça le pire. C'est que les hypersensibles, et tu le sais aussi bien que moi, et c'est l'objet de ton podcast aussi, c'est justement de redonner toutes tes ressources aux hypersensibles pour que les hypersensibles retrouvent leur puissance intérieure. Arrête de se voir comme trop quelque chose, pas
Bah,
assez
c'est
ceci, et vive avec cette honte permanente de pas être comme il faut, en fait, ou comme il faudrait. Et quand il s'agit de prendre des postes à responsabilité, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de faire porter sa voix, même en politique, dans toutes les sphères finalement de la société où on pourrait contribuer vraiment de manière hyper puissante justement, bah moi j'en ai marre de voir des gens qui ne s'autorisent pas à ça parce qu'ils pensent qu'ils sont trop sensibles pour y arriver, quoi.
Ouais, c'est ça.
Le problème n'est pas l'hypersensibilité dans ce cas-là. C'est pas l'hypersensibilité notre problème majeur. Notre problème, c'est de croire qu'on n'est pas assez bien. Notre problème, c'est un problème d'estime de soi, c'est un
Destine de
problème de
soi.
confiance en soi, c'est un problème aussi de pas pouvoir fixer, de pas savoir ou de pas pouvoir ou de pas d'avoir du mal à fixer des limites.
Ouais.
Mais c'est pas un problème d'hypersensibilité. Fixer des limites, ça s'apprend. L'estime de soi, ça se restaure. Ça demande du travail, ça c'est sûr. Je pense que l'autre problème aussi, c'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, c'est syndrome Mère Teresa, syndrome de sauveur, où forcément, quand on est hypersensible, on a envie d'aller sauver la terre entière. On supporte pas que les gens souffrent, de voir les gens souffrir. Et donc on est prêt à se plier en quatre pour sauver toute la planète. Mais c'est pas que ça et je pense que c'est important que les gens l'entendent ça. Il n'y a pas que des bons sentiments derrière tout ça. Derrière, je veux sauver la planète, je suis Mère Teresa, je fais des contorsions dans tous les sens pour faire plaisir aux autres, je fais passer les autres avant moi systématiquement. On aime à se raconter quand on est hypersensible que quand on fait ça, ben ça nous donne une preuve qu'on est une bonne personne, un bon être humain et qu'on aura un bon karma. Mais c'est aussi notre ego qui parle parce que notre ego, sa plus grande crainte, c'est d'être abandonné, c'est de pas être aimé, c'est d'être rejeté et on l'a assez vécu quand on était jeune, justement, je pense vraiment quand on est différent de la norme. Bah d'avoir ce sentiment d'être rejeté, abandonné, pas aimé, pas en lien. Et donc, toutes ces contorsions qu'on fait et tout ce besoin d'aller sauver tout le monde et d'être gentil avec tout le monde, c'est aussi pour satisfaire une partie de nous qui a peur de tout ça, qui a peur de pas être aimé, qui a peur de pas avoir de valeur, qui veut prouver sa valeur. C'est aussi une manière de prouver notre valeur qu'on fait tout ça. Et juste déjà d'en être conscient et de regarder cette part-là et de sortir un peu de ce truc un peu angélique et très manichéen de les hypersensibles sont les gentils et les autres sont tous des connards. Je dis des gros mots, je suis désolée.
Non, il n'y a pas de problème.
Et ben c'est aussi une manière de sortir un peu du statut de victime, de prendre sa part de responsabilité et d'aller regarder, de dire, ouais, c'est vrai, à l'intérieur de moi, il y a une part, un peu la faillotte, là, qui a envie de plaire à tout le monde, qui a envie de séduire tout le monde, qui a envie d'être gentille, mais qui a envie d'avoir un tampon, genre Calliope de Mère Teresa, quoi, pour la Mère Teresa attitude, comme si ça allait nous donner des points de vie en plus, ou que ça allait nous envoyer au paradis s'il existe. Et je trouve que c'est important de faire preuve d'honnêteté radicale sur cette partie-là, pour reprendre sa puissance personnelle, justement. Parce que du coup, si je regarde ça, alors je peux commencer à arrêter de me contorsionner dans tous les sens. Je peux commencer à mettre des limites quand il faut mettre des limites. Je peux commencer à me respecter et à me dire, est-ce que quand je dis oui, j'ai vraiment envie de dire oui. Quand je fais ça, est-ce que vraiment ça m'éclate? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Non. Bah alors ne le fais pas. Pourquoi tu te forces à le faire? Qu'est-ce qui te pousse à le faire systématiquement? Donc je pense que c'est important d'aller regarder ça et pour sortir aussi de ce statut de victime qui est aux antipodes du leadership et aux antipodes de la puissance personnelle. Si, par définition, si on est une victime, victime des autres, oui, les autres ne me comprennent pas, oui, les autres sont ingrats, oui, avec tout ce que je fais pour les autres, et quelle ingratitude, et il n'y a pas de retour et tout ça. Donc si je m'enferme dans ce truc de victime, je donne systématiquement le pouvoir aux autres de contrôler mon humeur, de contrôler ma vie, de contrôler mon énergie. Donc je file les clés de ma bagnole aux autres et c'est eux qui la conduisent. Donc là, regardez cette part-là, Fayotte, là, qui a envie de plaire à tout le monde pour être aimée, c'est aussi une manière de récupérer les clés de sa bagnole et de dire, OK, et si j'avais pas besoin de faire tout ça pour être quand même une bonne personne? Et si le meilleur des exemples que je puisse donner à mes enfants, à ma famille, à mes amis, à mes collègues, c'est de prendre soin de moi, de respecter mes besoins, de me respecter. La majorité des hypersensibles que je rencontre, et que toi aussi, quand ils viennent nous voir, au début, c'est vraiment le manque de respect qui ressort. Ils disent, j'en ai marre, j'ai l'impression qu'on me respecte pas. Mais oui, mais est-ce que toi, tu te respectes,
C'est ça.
déjà? C'est nous qui donnons le mode d'emploi aux autres de comment on a envie d'être traité. Et donc, si le mode d'emploi, c'est un libre service de genre, venez, bonjour, servez-vous, prenez tout ce que vous voulez, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et je dis oui à tout, bah, c'est le mode d'emploi qu'on donne. Pourquoi les gens feraient autrement, en fait? Donc, c'est nous qui donnons le mode d'emploi, et donner le mode d'emploi, c'est déjà une manière de se respecter. Alors, ça peut faire grincer des dents, mais les gens finissent par s'habituer et commencent à nous respecter. Et ça, bah, c'est ça du leadership aussi. Et c'est inspirant. C'est-à-dire que, tu sais, moi, c'était quand il y a 15 jours, j'ai recadré vraiment il y a quelque chose qui me plaisait pas dans un partenariat que j'avais, en plus avec une amie. Donc, c'est toujours encore plus
Encore
délicat
plus
avec les
délicat,
amis.
ouais.
Mais c'était pas juste pour moi. Et c'était même pas lié à ce que elle est ou à qui elle est, parce que par ailleurs, je l'adore. C'est la situation qui n'était pas juste pour moi, qui n'était pas OK. Et j'ai peut-être mis 3 semaines avant de lâcher le morceau et de me dire oui, mais je vais lui dire, mais ça va lui faire de la peine et je veux pas lui faire de peine et machin et tout ça. Alors il y avait peut-être une partie de moi qui en effet voulait pas lui faire de peine, mais il y avait quand même surtout une partie de moi qui voulait pas passer pour la méchante.
Ouais, c'est ça.
Surtout ça, en fait, le truc. Et donc, il y a 15 jours, j'ai rassemblé toutes mes forces intérieures et j'ai pris sur moi vraiment et je me suis dit, non, mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Parce que sinon, je me connais. Si je suis dans ma période, chihuahua cocaïnomane, ça va ressortir, mais ça va ressortir pas de la bonne manière du tout. Et donc là, je vais faire du mal à la personne. Je le sais, ça m'est déjà arrivé. Donc là, j'ai rassemblé tout mon courage, j'ai pris ma peur avec moi et je lui ai dit. Et je lui ai dit ce que je pensais et j'ai recadré les choses. Bon, j'étais soulagée après, mais j'attendais avec fébrilité sa réaction quand même et sa réponse. Et elle m'a envoyé un message qui est tellement joli. Elle m'a dit, je te remercie parce que en te respectant, tu me donnes l'exemple que je peux me respecter aussi et du coup, je me sens très respectée. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à cette réponse. Et je me suis dit, bah, tu vois, là, quand on parle de leadership, je me suis dit, bah, c'est ça, en fait, le leadership. Le leadership éclairé, c'est vraiment ce truc-là. C'est déjà restaurer sa puissance personnelle, pas pour écraser les autres, mais déjà pour se respecter dans un premier temps. Et ça, bah, c'est hyper inspirant pour les autres. C'est un
Carrément.
service qu'on leur rend. Moi, je sais que j'ai 4 enfants, j'ai 3 garçons et une fille. Bien évidemment, les garçons, je leur fais passer des messages, qui je suis, j'imagine que ça leur donne un peu un exemple, mais je me sens encore plus responsable vis-à-vis de ma fille, surtout vu la lignée que j'ai et vu cette famille très dysfonctionnelle que j'ai, notamment avec les filles, avec beaucoup de trucs d'abus. Et vraiment, je sais que j'ai ça à l'esprit tout le temps, c'est-à-dire que dans les moments où je manque de courage, parce que je manque de courage comme tout le monde, à des moments on n'est pas au top tout le temps, et vraiment je suis loin d'être au top tout le temps, donc c'est ascendant marmotte, voire moine bonze shooté au bromure, tu vois. Genre j'ai des périodes, j'ai des phases où je suis, voilà, où je doute de moi, où j'ai peur de plein de trucs, où il y a cette partie de moi qui veut être aimée à tout prix, qui est hyper réactive avec tout et qui fait n'importe quoi. Et pour me rapatrier à chaque fois, bah moi je pense à ma fille en fait, et je me dis, mais quel exemple de femme en fait t'as envie de lui donner? C'est quoi l'exemple de femme que t'as envie de lui donner? T'as envie de lui donner l'exemple d'une femme soumise, sous emprise, qui ferme sa gueule pour tout, qui s'autorise pas à réussir, qui... Non, tu n'as pas envie de lui donner cet exemple de femme-là. Donc occupe-toi, balaye devant ta porte, fais ce que t'as à faire pour toi, et en fait ça se passe de commentaires d'éducation. C'est-à-dire
C'est ça,
que je pense que juste d'être déjà de balayer devant notre porte et de faire le travail pour nous suffit et suffisant. Parce que quand nous, on va bouger, quand nous, on récupère notre leadership, quand nous, on récupère notre puissance, forcément, vu qu'on est dans un système,
le
on est dans un
système
système, qu'on
bouge,
le
ouais.
veuille ou non, on est dans plein de systèmes, même dans différents systèmes. Bah, quand nous, on bouge, quand nous, on se densifie, ça bouge, ça fait bouger la dynamique relationnelle. Dans un sens ou dans un autre, peu importe. En tout cas, ça fait bouger. Mais après, chacun la responsabilité de ses réactions. C'est ça le truc. Mais c'est aussi que on n'a pas besoin d'aller convaincre les gens. On est convaincant. Et je pense que sur le leadership, il y a aussi cette caractéristique-là qui est que quand on est dans un leadership éclairé, on n'a pas besoin d'aller convaincre les autres. On est convaincu. On fait le travail pour nous. Et donc, on devient convaincant naturellement. Je pense que c'est ce qui s'apparente aussi, et je pense que c'est bon de le rappeler par rapport à l'éducation des enfants, ce truc-là, à ce qu'on appelle l'autorité naturelle. Mais en fait, l'autorité naturelle, on ne l'a pas dès la naissance. C'est pas, il y a des gens qui naissent avec une autorité naturelle et d'autres, pas de bol, ils l'ont pas. Non, pas du tout. Je pense que c'est tout ce travail-là sur nous-mêmes, sur notre ego, sur nos blessures, sur notre estime de nous, sur les blessures de l'ego, sur sortir de cet ego-là, qui fait qu'à un moment donné, on est tellement aligné, tellement ancré, tellement centré, tellement dans notre centre, qu'on dégage une autorité naturelle, un respect naturel, et qu'on n'a pas besoin d'exercer de force, qu'on n'a pas besoin d'imposer des choses aux gens. Les gens ont envie de nous suivre, en fait. Ça devient très attirant, très magnétique, cette
Magnétique, ouais,
histoire.
c'est ce que j'allais dire.
Et ça marche sur tous les pans de vie, en fait, y compris avec ses enfants. Enfin, moi, je sais que ma fille, j'ai pas exercé beaucoup. Les garçons, c'était un peu plus compliqué, mais parce que ça vient toucher aussi des zones de moi qui ont certainement été blessées différemment. Et encore, je me suis améliorée. On va dire que le petit dernier de 12 ans bénéficie quand même de tout le travail qui a été fait avant avec ses frères et sœurs, qui, eux, ont essuyé tous les plâtres. C'est vrai, je m'en suis excusée 12 milliards de fois auprès d'eux de dire, oh, je suis vraiment désolée. Je pense qu'il y a des moments, j'ai vraiment dû être tellement merdique, mais c'est comme ça. J'ai fait du mieux que je pouvais à cet instant-là, mais je pense que c'est vraiment ce truc-là de leadership qui fait qu'après, les enfants, bah, ils nous suivent.
Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu incarnes ton message, en fin de compte, t'as presque plus rien à faire finalement.
C'est ça.
Bon, après, on n'est pas dupes non plus, il y a du travail derrière, mais
Mais c'est beaucoup de travail, hein.
ouais.
C'est beaucoup de travail. C'est de faire du travail qui est pas confortable. C'est du travail émotionnel, c'est du travail énergétique. C'est quand même, faut aller revisiter son histoire, sans rester accroché dans son histoire et cristallisé dans le roman familial. C'est prendre sa responsabilité et prendre la responsabilité de sa vie et de son bien-être. Bah, c'est pas facile. C'est
Non.
courageux, je trouve. C'est courageux. Et moi, je suis toujours émerveillée et très honorée, en fait. Je me sens très, très honorée de voir tous les gens qui me font confiance et de les voir évoluer et de voir que en tout cas je suis assez fière de moi de me dire je leur donne assez envie pour qu'ils rapatrient leur courage et qu'ils aillent le faire le travail. Et je suis très honorée qu'ils le fassent avec moi, ce travail, quand ils font le travail avec moi. Et ils peuvent être tellement fiers d'eux. Moi, j'ai pas à être fière des gens que j'accompagne. Comme j'ai pas à être fière de mes enfants. C'est pas ça. C'est eux, ils peuvent être fiers d'eux-mêmes, en fait. Parce que,
c'est ça.
Ouais, parce que c'est pas confortable, hein, d'aller remuer tous ces trucs-là.
Ouais, c'est vrai que moi, j'ai des fois ma fille qui me dit, est-ce que tu es fière de moi, maman? Je dis, non, mais la question, c'est surtout, est-ce que toi, tu es fière de toi?
Ben ouais, vraiment,
Ouais.
vraiment. Parce que fière de, ben, si on était, de dire à nos enfants ou à quelqu'un, je suis fière de toi, ça veut dire que, on valide encore de l'extérieur la
Ouais,
valeur de la
ça.
personne. Et le but, moi, je trouve que le but, et je trouve que c'est ça être leader, mais par exemple, quand on est enseignant, on est un leader. Quand on est un parent, on est un leader déjà de sa famille, de sa propre famille. C'est justement d'arriver à donner les ressources à ceux qu'on accompagne, de se valider intérieurement, de pas avoir besoin systématiquement d'une validation extérieure, de genre, ah, maman, j'ai fait un beau caca, dis-moi que j'ai fait un beau caca. Oui, ma chérie, tu as fait un très beau caca, c'est bien, maman est contente. Ça, c'est ce qu'on fait quand les enfants ont 2 ans, mais je pense qu'en fait, il faudrait même pas le faire, ce
Ouais,
truc-là.
déjà là, ouais, ça
Ça,
part
mais ça
mal, en
commence
fait.
déjà dès qu'on, ça part mal, c'est ça. Et si on a ça à l'esprit, et à chaque fois de renvoyer à l'enfant, de renvoyer aux adultes qu'on accompagne, de dire, mais non, mais toi, ça doit venir de l'intérieur, c'est toi, est-ce que tu peux te connecter à cette satisfaction d'avoir fait un effort et d'avoir dépassé des difficultés et d'avoir réussi, même si c'est pas parfait? Ça aussi. Un truc. Mais c'est pas à moi de te dire oui, c'est bien, bravo. Je peux me réjouir pour toi, je peux te dire que c'est génial, je peux te dire mais le mérite revient toujours à celui qui a fait les efforts.
Ouais, c'est clair. On a parlé un petit peu, mais justement, les atouts sur lesquels on peut s'appuyer pour développer son leadership en tant qu'hypersensible, c'est quoi selon toi?
Ah bah clairement son intuition, le baromètre intérieur. Je pense que si on écoutait et si les personnes hautement sensibles écoutaient plus souvent leur corps, et ça passe par le corps, hein. Elles ont une boussole intérieure qui font qu'elles se tromperaient très très rarement. Enfin, de toute façon, après, il y a même pas, pour moi, j'aime pas de notion d'erreur dans la vie, donc c'est que des expériences qui nous apprennent des choses. Mais je pense qu'elles seraient dans le juste, en tout cas, dans le juste au sens, la justesse pour elles, en écoutant beaucoup plus leur intuition et leur corps, premièrement. Deuxièmement, on peut s'appuyer sur notre empathie et sur notre réservoir de joie et de créativité. Enfin, y a vraiment quand même ce truc-là. Le réservoir d'amour et de joie, c'est deux forces qui sont tellement puissantes que si on les incarne dans notre vie, je pense qu'on devient des leaders naturels aussi. Et s'appuyer, là, c'est pas s'appuyer. Donc ça, c'est les atouts sur lesquels on peut s'appuyer. Mais je pense que les personnes hautement sensibles, il y a un vrai gros travail à faire sur l'ego et sur le besoin d'être aimé à tout prix, qui est un vrai problème, le besoin d'être aimé à tout prix, et sur les limites. Mais je pense que si la personne arrive à travailler là-dessus, à mettre plus de cadres, plus de limites, saines, j'entends, hein, pas des forteresses avec des clous et des pieux et des machins, hein, mais à mettre des limites saines. Et à restaurer cette estime de soi, bah après, les forces qu'on a naturellement, c'est des forces de leader, de toute façon. D'avoir la vision, d'être capable de se projeter, de capter les signaux faibles, parce que ça, pour la créativité, pour se réinventer, pour rebondir, pour innover, enfin, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et notre capacité à être en lien, quand même. C'est parce que c'est qu'en étant en lien qu'on peut donner aux gens envie d'avancer avec nous.
C'est sûr que si on reste enfermé chez soi, ça va pas servir à grand-chose.
Mais ouais, ou si on est complètement handicapé de la communication. Alors je sais que dans les personnes hypersensibles, il y a des personnes qui sont tellement introverties que voilà, le lien peut être douloureux même et compliqué. Mais là, dans ce cas-là, bien évidemment, je dirais jamais à quelqu'un de complètement introverti de se faire violence, quoi. Enfin, c'est le pire qu'on puisse dire à un introverti, c'est de se faire violence pour aller vers les gens. Mais en revanche, bah peut-être que sa place pour le coup, c'est pas d'être un leader dans un collectif, mais en revanche, c'est de dire, mais voilà, le leader de toi-même, le leadership de toi-même, ça, tu peux le faire. Et je pense que en travaillant son leadership personnel, petit à petit, on peut devenir un introverti, mais qui ne souffre pas d'être en lien.
Ouais.
La souffrance du lien, elle est liée à des traumas, forcément, et à des traumas de la petite enfance liés au lien. Donc, soit les liens d'origine, soit dès qu'on est rentré, dès qu'on a été exposé déjà à la famille, aux autres, au machin, à l'école et tout ça, il y a eu des traumas qui sont mis en place qui font que la personne, elle, c'est encore plus douloureux et qu'elle s'est encore plus renfermée sur elle-même. Donc, je pense qu'il y a Le but n'est pas de transformer tous les introvertis, par exemple, en extravertis qui sont en archi-lien avec tout le monde. Non, non. Le but, c'est de rester tel qu'on est, mais en moins douloureux.
C'est ça.
Et on est fait pour être en lien, en revanche.
Oui.
Donc, je pense que c'est important quand même que, voilà, parmi les auditeurs qui sont introvertis, d'entendre ça, qui est que nous sommes des animaux sociaux. Alors, on n'a pas à être en lien n'importe comment et on peut choisir avec qui et comment on a envie d'être en lien. Mais la stratégie qui consiste à se renfermer comme un bigorneau chez soi et à pas être en lien, c'est une conséquence de trauma. Donc, c'est pas souhaitable. Et ça vaut le coup de le travailler, ce truc-là.
Moi, je sais que, par exemple, moi, je suis une introvertie, j'aime mon petit confort, j'aime être chez moi et tout, mais j'avais vraiment besoin, par exemple, dans le podcast, de m'exprimer. J'ai été chercher ça. Donc, même quand on est introverti, on peut aussi
Mais
aimer
oui.
communiquer, finalement.
Et moi, c'est ce que j'explique toujours. Moi, je suis les deux. Je suis ambivertie. Je suis introvertie, extravertie. Ça dépend des contextes. Et moi, je suis tout à fait à l'aise et extravertie là quand tu m'invites parce que je sais que tu m'as invité, que j'ai, voilà, que je suis en amie et que en confiance et je suis bien et je vais m'exprimer. Il n'y a pas de problème. Mais moi, dans un cocktail avec des gens que je connais pas, je parle à personne.
Pareil.
En plus, ça m'intéresse pas.
En plus,
Non, mais le small talk ne m'intéresse
c'est
pas.
ça.
Donc, forcément, oui, ça va, ça va, ça va. Et puis, ça me met mal à l'aise. Et en fait, quand je suis pas attendue quelque part, ben, j'ai l'impression d'être une petite souris et je voudrais être invisible, vraiment. Mais ça m'empêche pas quand même d'être en lien. Mais sauf que je choisis. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. Et c'est ça le leadership aussi. C'est de ne plus subir des situations, mais de choisir ses contraintes. Et c'est la liberté aussi. C'est vraiment, moi je
Ouais,
dis tout
c'est
le temps ça,
ça.
la liberté, c'est le fait de pouvoir choisir ses contraintes. Donc moi je sais que être en lien me procure aussi beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction, mais pas n'importe comment. Je serai pas en lien n'importe comment. Et donc c'est fini ça. Moi je veux plus jamais, je l'ai assez subi, mais je ne veux plus subir des relations et des liens qui me mettent mal ou qui me mettent en danger ou qui finito. Et du coup c'est pas mais c'est et je prends de ce fait un grand plaisir à être en lien quand je l'ai choisi. Et c'est ce qui
Pareil.
me permet aussi quand même de pouvoir développer aussi mon activité professionnelle. Si j'étais pas capable d'être en lien du tout, je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui.
C'est sûr. Du coup, dans ta pratique, tout comme moi, tu l'as dit au début, tu accompagnes surtout les femmes, même si tu as quand même quelques hommes dans ta
Oui.
communauté qui te suivent quand même. Les femmes, et notamment les femmes atypiques, sont encore beaucoup dans la croyance qu'elles ne possèdent pas les qualités pour être des meneuses ou des chefs de file, du coup. Et souvent, elles se contentent de jouer petit, alors qu'elles ont au fond d'elles un potentiel dont la plupart du temps, elles ne sont même pas conscientes. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager par rapport à ça?
Bah, je pense que ça, enfin, voilà, ce que tu dis là, c'est Enfin, je pense que j'y ai déjà un petit peu répondu avant, c'est-à-dire que moi, je pense qu'on est vraiment dans des croyances qui sont liées à la société, hein, et à notre société et à ce système patriarcal qui, depuis la nuit des temps, nous a fait croire qu'on était inférieur, nous a fait croire qu'on était sensible, qu'on était fragile, qu'on était hystérique, qu'on était des sorcières à un moment donné, parce que voilà. Et a mis en place tout un système pour vraiment nous maintenir, enfin maintenir le couvercle de la casserole, mais alors bien, bien serré quand même, hein. Et il faut que ça change. Et c'est en train de changer. Alors moi, je suis pas une chienne de garde, je suis pas une féministe, je suis contre toute forme d'extrémisme voilà, et de militantisme extrémiste. Ça me fait très, très peur ces histoires-là. Mais je trouve qu'aujourd'hui, On peut être féministe sans être extrémiste en voulant juste rééquilibrer les choses. Et comment on rééquilibre? C'est pas en faisant la même chose que les hommes ont fait pendant des siècles aux femmes et en voulant maintenant mener une guerre contre les hommes et vouloir les bannir de tous les postes à responsabilité et de vouloir les déconstruire complètement et ou alors après ils perdent des pédales complets, ils sont complètement paumés dans leur vie. Je pense pas du tout que c'est comme ça qu'il faut procéder. Je pense que c'est vraiment d'en revenir chacune à soi, de s'autoriser plus. C'est de se dire, OK, le système, il est tel qu'il est, OK, mais moi, à mon niveau, qu'est-ce que moi, je peux faire pour incarner plus ma puissance? Qu'est-ce que je peux m'autoriser à vivre, à être, à, voilà, quel projet j'ai envie d'accoucher, que ce soit au niveau professionnel, au niveau perso, comment je m'autorise, justement, à aller enfoncer des portes pour, je sais pas, pour être promu, pour avoir un poste, pour lancer son business, pour voyager, pour c'est vraiment s'autoriser, c'est une question d'autorisation et c'est bien tout le propos de mon travail et de que ça soit par les formations ou par les accompagnements que je fais, c'est vraiment d'accompagner ces femmes à se donner l'autorisation de s'épanouir, de s'expanser, de gagner de l'argent, de faire des projets, de déménager si elles ont envie de déménager, de changer de pays si elles ont envie de changer de pays, en fait, de vivre la vie qu'elles ont envie de vivre, de s'autoriser à avoir tout ce qu'elles ont envie d'avoir ou qui elles ont envie d'être et à s'autoriser avec qui elles ont envie, à faire porter leur voix aussi, à faire entendre leur voix, leurs messages, leurs engagements, leurs contributions, à avoir de l'impact. Et je pense que c'est comme ça que si toutes les femmes commencent à s'y mettre, mais pas contre les hommes,
Pour elle.
pour elles, alors enfin, ça va changer, ça va nécessairement changer. Puisque, encore une fois, si moi je change, le système change. Et les hommes, moi j'adorerais qu'il y ait plus d'hommes qui viennent travailler avec moi parce que, pour le coup, moi, dans mon entourage et dans mon entourage personnel, j'ai des hommes autour de moi qui sont tout à fait à l'aise, qui font des leaders, mais qui sont des leaders sensibles, qui sont des leaders éclairés, qui sont tout à fait à l'aise avec leur vulnérabilité, qui sont tout à fait à l'aise avec leur sensibilité, ce qu'on pourrait appeler leur part féminine, mais même sans parler de part féminine, c'est partie d'eux-mêmes complètement éclairés, sensibles, vulnérables. Et qui sont des super, pour le coup, qui sont des super partenaires, et de jeu, et de vie, et de travail. Et moi, j'ai cette chance autour de moi d'avoir vraiment des exemples d'hommes qui sont comme ça. Donc moi, j'adorerais avoir plus d'hommes qui viennent travailler avec moi, qui viennent se faire accompagner aussi pour s'autoriser eux aussi à être beaucoup plus dans leur puissance et sans passer du côté du pouvoir. Mais être dans leur puissance, c'est mon travail de tous les jours. Et c'est vrai que ça nous amène à cette question quand même d'indépendance et d'indépendance affective. Je travaille vraiment sur les deux plans, quoi. Il y a l'indépendance affective, émotionnelle et psychologique, enfin, c'est plusieurs plans d'ailleurs, et l'indépendance financière. Parce que ça passe, l'indépendance économique, parce que ça passe aussi par là. Qu'on le veuille ou non, ça passe par là. C'est combien de femmes restent dans des situations qui sont pas tolérables. Sans parler de violence, il y a les violences, ça c'est encore autre chose. Mais même sans parler de violence, avérée, de violence ordinaire, de négligence, qui reste dans des couples, qui reste dans des organisations de travail. Où justement elles ne se respectent pas, où elles ne sont pas respectées, où elles acceptent l'inacceptable, mais parce qu'en fait, il y a une dépendance économique.
Ouais, complètement.
Sauf que mon histoire, ma démonstration, elle est un peu bancale parce que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que pour accéder à l'indépendance économique, dans le sens où, waouh, j'arrive à faire péter un peu mon plafond de verre, j'arrive à m'autoriser à gagner plus d'argent et tout ça. Ça demande en fait un travail de puissance personnelle.
Ouais, c'est sûr.
Donc on en revient toujours aux mêmes choses. Donc de travailler les blessures, travailler les traumas, réguler le système nerveux. C'est vraiment le socle du travail de fond C'est ce travail-là, en fait. C'est le travail émotionnel, nerveux et psychique qui va permettre de dépasser, de sortir de l'histoire de blessure, de l'histoire de trauma que je me raconte, où du coup j'ai créé des croyances négatives sur moi-même qui abîment mon estime de moi, qui abîment ma confiance en moi, qui fait que j'accepte des choses qui ne sont pas acceptables et qui fait que je me maintiens en situation de dépendance. Voilà.
On s'en sort pas.
Bah, on s'en sort pas si on s'en sort en travaillant ça. Hein.
Ouais, ça
Moi,
demande du temps.
j'adorerais pouvoir dire aux gens, il y a une recette magique comme ça. Enfin, voilà, même pour l'indépendance financière. Hier, je répondais à une dame qui me disait, oh oui, enfin c'est bien tout ça, mais quand même, quand la personne elle te demande comment faire pour gagner plus d'argent, il y a quand même des trucs à mettre en place et tout. Je dis oui, il y a des trucs, je peux et c'est ce que je donne à mes clients. Je peux te donner la stratégie. Je peux te dire comment il faut que tu augmentes tes prix, comment il faut que tu communiques, comment communiquer sur Instagram, comment communiquer machin, ta 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 ta. Je peux te donner toutes les stratégies de marketing et de communication efficaces. Et si tu les appliques pas,
Ouais.
ben ça va pas marcher. Et pourquoi tu les appliques pas? Parce que tu te sens pas capable de les appliquer, parce que tu te sens pas capable de te montrer aux autres, de te dévoiler, parce que tu penses que gagner de l'argent c'est mal et que tu vas basculer du côté des vilains capitalistes qui profitent de la misère des gens et da parce que plein de choses en fait. Donc la stratégie, les stratégies, le marketing et la communication, c'est 20% du fait de générer de l'argent et de gagner de l'argent. 20%. 80%, c'est soi-même, c'est le travail sur soi, c'est nos blessures, c'est nos traumas qui font, c'est nos loyautés. Les loyautés qu'on a familiales, de reproduction, de réparation, de choses comme ça, qui font que il y a des gens qui font rentrer, qui arrivent à créer de l'argent et qui perdent tout, ou alors qui arrivent à créer de l'argent et qui sont en anxiété permanente par rapport à l'argent. Donc ça, ils arrivent à en créer, à générer de l'argent et à gagner de l'argent, mais ils sont en anxiété de le perdre. Ou alors, ils arrivent à générer de l'argent, mais ils laissent tout filer. C'est l'hémorragie. Et il y a ceux qui bloquent carrément l'entrée d'argent. Ils n'arrivent pas à créer d'argent. Ils n'arrivent pas à avoir des clients. Ils n'arrivent pas à demander des promotions. Ils n'arrivent pas à changer de job. Ça, comme si ça voulait pas rentrer, comme si c'était pas, ils n'y avaient pas accès, en fait. Et ça, c'est pour le coup, il n'y a rien de magique, quoi. C'est lié à nous, à notre histoire, à nos blessures. Donc, c'est un travail qui est pas le plus sexy de la méthode en 9 points, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça, en 9 points, et tu vas gagner de l'argent. C'est pas comme ça que ça marche.
Ouais. C'est vrai que le leadership, on l'a dit, ne s'exerce pas forcément dans le milieu professionnel. Cette fameuse question de la relation à l'argent chez les entrepreneurs hypersensibles, qu'est-ce que tu constates justement à ce niveau-là?
Bah, je pense que, alors un peu tout ce que j'ai dit avant, mais là, plus spécifiquement, moi, ce que je rencontre chez les entrepreneurs hautement sensibles, c'est vraiment, il y a le syndrome de Mère Teresa, et vraiment avec ses représentations par rapport au fait de gagner de l'argent, alors notamment les entrepreneurs qui sont dans l'accompagnement, encore plus. Beaucoup donc sont enfermés dans le syndrome de Mère Teresa. De je veux sauver toute la planète, je veux aider tout le monde, je suis sensible, il suffit que la personne me dise ah oui mais j'ai pas beaucoup d'argent en ce moment, bon bah c'est pas grave, je te le fais gratuit, ne demande pas à ce que leur facture soit payée, pense toujours voilà à l'aveugle, l'orphelin, les difficultés que l'autre a, sans penser à leurs propres difficultés, à leurs propres besoins. Donc moi je rencontre ça, ces cas de figure-là. Les cas de figure aussi, enfin la difficulté de fixer ses tarifs et de donner de la valeur à son travail, mais qui est liée pour le coup, alors encore plus chez les hypersensibles, il y a vraiment un tel déficit d'estime de soi, tellement de doutes, tellement de lucidité, tellement de voilà d'être enfermé là-dedans aussi, que grosse difficulté de fixer un prix, un juste prix, mais qui soit réaliste. Moi, je suis assez, enfin, voilà, je suis assez horrifiée de voir des entrepreneurs hypersensibles qui lancent, ou ça fait déjà même un moment qu'ils sont dans leur activité, avec des prix où quand, si on fait un vrai tableau Excel et qu'on commence à enlever les charges, tout ça, ça n'est pas rentable, ça n'est pas viable. On ne peut pas se tirer un revenu décent pour pouvoir payer son loyer, pour pouvoir manger à sa faim. Je parle même pas là d'être riche et de faire des millions et des choses comme ça. C'est que la majorité des entrepreneurs que je vois, surtout les hypersensibles, ont beaucoup de mal à fixer des tarifs justes et rentables, beaucoup de mal à se faire payer, beaucoup mal à communiquer, à parler de ce qu'il faut, à se mettre en avant, mettre sous le regard des autres. Donc oui, c'est vrai que l'hypersensibilité, dans ce rapport-là, en plus à que ça demande en fait pour générer de l'argent. Parce que quand on est entrepreneur, qu'est-ce qui génère de l'argent? C'est le fait d'avoir des clients qui nous payent pour nos services. Jusqu'ici, on est d'accord sur la définition.
C'est bien ça.
Voilà. Mais donc, ça demande quoi? Ça demande donc de trouver des clients. Donc, pour trouver des clients, il faut avoir une offre de service, des services déjà. Donc, être sûr et être convaincu que ce qu'on a à offrir, ça a de la valeur. Donc, après, fixer le prix en fonction de la valeur et après, demander à se faire payer et communiquer pour trouver des clients. Donc, se mettre en avant. Et donc, dans cette communication, forcément que ça demande aussi de dire des choses positives sur soi, de dire à quel point ce qu'on fait, c'est génial et à quel point ça répond à un besoin, quel que soit notre métier d'ailleurs, vraiment, quel que soit notre métier. Ça demande de se démarquer par rapport aux autres et donc de montrer son originalité et son unicité. Et moi, ce que je rencontre chez les entrepreneurs atypiques, hypersensibles, c'est qu'ils essayent de faire comme les autres. Et de se fondre dans la masse, et de faire sérieux, et de faire comme ci, et de faire comme ça, parce qu'ils ont vu que c'était comme ça qu'on faisait. Et moi, j'arrête pas de leur dire, je leur dis, mais non, c'est tout l'inverse, en fait, qu'il faut faire. C'est que plus vous allez être vous-même, exactement vous-même, plus vous allez être clivant. Donc, il y a des gens qui vont vous détester, et ça sera pas vos clients. Et il y a des gens qui vont vous adorer, et qui vont absolument vouloir travailler avec vous, parce que vous vous serez montré exactement tel que vous êtes, avec votre sensibilité, avec vos bizarreries, ce que vous trouvez bizarre, peu importe. Et dans ce rapport à l'argent, par rapport à l'argent, il y a un vrai travail, justement, d'aller apaiser sa relation à l'argent. Et ça passe par revenir sur son histoire, sur les traumas, sur le transgénérationnel, sur les loyautés ou les réparations. C'est hyper intéressant. Moi, quand je travaille la relation à l'argent, je travaille vraiment là-dessus parce que c'est tellement intéressant de voir où est-ce qu'il y a eu des faillites dans la famille, où est-ce que des gens ont fait fortune et sont devenus les gros cons de la famille, esclavagistes, pas sympas, radins, machin. Et donc, ceux qui ont réussi dans la famille, c'est devenu les gros cons capitalistes. Et nous, on est des familles de fonctionnaires ou de père en fille. Et on gagne pas beaucoup d'argent et on est fiers de l'être parce que eux, les autres, t'as vu, c'est des parvenus, comment ils, voilà, les histoires dans les familles de succession et de que je t'ai spolié tes biens et que je t'ai pris ta part et je veux récupérer ma part et voilà. Des histoires d'arnaque, des histoires de trahison, des histoires de gens qui ont gagné beaucoup d'argent et qui ont tout perdu. Et donc, d'aller interroger tout ça, d'aller interroger sa relation, comme je te le disais tout à l'heure, et tout ça d'autant plus qu'on est hypersensible, parce que quand on est hypersensible, tout est exacerbé. Et donc, les personnes qui sont déjà d'un naturel anxieux, il y a très peu de chances qu'ils soient, enfin, il y a pas de raison qu'ils soient pas anxieux par rapport à l'argent et au fait d'avoir peur de perdre d'argent, peur de pas en gagner assez, d'être dans la peur et dans le manque, en fait, d'être dans la précarité, sans être dans la précarité, mais d'être dans une espèce de précarité tout le temps psychologique qui fait que on pose pas les actions à la hauteur de nos objectifs, quoi. Et donc, c'est pas comme ça qu'on fait rentrer l'argent. Ceux qui, en fait, font de la rétention d'argent et ceux qui laissent pas rentrer l'argent. Et c'est vrai que ça se travaille avec aussi beaucoup de travail émotionnel, énergétique, beaucoup de travail sur la question de l'abondance, mais de l'abondance d'une manière générale dans sa vie. C'est pas que l'argent. En fait, tout n'est pas qu'une question d'argent. Moi, je te dis, hein, je connais des gens qui ont beaucoup d'argent sur leur compte en banque et qui sont en insécurité max et qui sont très pauvres, hein, et qui se sentent pauvres. Mais parce qu'il y a y a pas de richesse par ailleurs. Donc il y a tout ce travail-là d'aller vers les émotions qui créent l'argent, d'aller vers une attitude aussi, une philosophie de vie qui fait qu'on est dans l'abondance de toute façon, qu'on ait de l'argent ou pas. et d'aller nettoyer. Après, pour le coup, franchement, la relation à l'argent, c'est quelque chose qui se travaille. De quelle histoire aussi j'ai envie d'écrire par rapport à ça et comment je peux m'arracher un peu à mon identité, à mon histoire, à mes lignées pour écrire une nouvelle histoire par rapport à l'argent. C'est pas parce que, je sais pas, je te donne un exemple, on est fonctionnaires tous de père en fils ou de père en fille, peu importe, et donc où on est assistante sociale de mère en fille dans cette famille. Et donc voilà, nous on gagne pas d'argent, mais on aide les autres. Est-ce que je peux aujourd'hui écrire une autre histoire, remercier toutes ces femmes-là de ma lignée qui m'ont amené aujourd'hui aussi à re-questionner le fait de pouvoir accompagner des gens et d'être payé pour le faire, par exemple, et que ça ne déshonore pas la fonction. Mais on en revient au syndrome de Mère Teresa
Ouais.
quand on parle de ça, vraiment. Il y a pas de... C'est pas moche. On en revient aux représentations. Il y a un gros travail aussi de représentation parce que on a été aussi conditionné par la société. Il y a des choses qui nous paraissent naturelles à pas remettre en cause. On remet pas en cause. Et moi, je trouve ça très bizarre d'ailleurs. C'est que on est dans une société, et notamment en France, où ça nous paraît normal que tous les services de soins, ben, ça soit gratuit. Genre, on paye pas, c'est la sécu, c'est la mutuelle. Enfin, la mutuelle, on
Sûr.
la paye, mais c'est la sécu qui paye. Et on paye pas, donc, comme si ça devait être gratuit, sous couvert de parce que c'est vital, ok? Mais par contre, on va au supermarché, on fait des caddies, on remplit son caddie. Et là, par contre, on ne met pas en cause le fait qu'il faille payer pour manger, alors que manger, c'est vital.
Ah
Donc,
non,
normalement,
sûr. Non.
si on suit la logique, mais tu vas voir le. Quand même la construction du truc, c'est que si on suit la logique, la nourriture, elle devrait être distribuée à tout le monde de manière gratuite, au même titre que les soins. Pourquoi les soins doivent être gratuits et pourquoi la bouffe, c'est payant? Bah parce que les soins, traditionnellement, c'est les femmes. L'enseignement, traditionnellement, c'est les femmes. Donc tous les métiers, et ça, on le voit en psychologie du travail, en sociologie du travail, tous les métiers qui se féminisent, se paupérisent. Les métiers féminins sont des métiers qui sont dévalués, dévalorisés depuis la nuit des temps. Les métiers masculins, par contre, c'est bien. C'est eux, ils ont le droit de gagner de l'argent. Eux, ils ont le droit de gagner de l'argent. Mais par contre, historiquement, quand tu es enseignante, quand tu es infirmière, on va prendre ces deux-là, donc le soin et l'enseignement, ça devrait être gratuit. Bah, c'est normal, c'est des métiers de femmes. Aujourd'hui, c'est de moins en moins des métiers de femmes, mais quand même, encore. En proportion, si tu regardes, c'est très 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 féminin, ça reste très très féminin, et donc c'est pour ça que ça devrait être gratuit, ou alors vraiment pas faire payer très cher. Alors que par contre, quand tu es coach en entreprise et que tu t'occupes de dirigeants masculins, là tu peux prendre 1000 euros de l'heure à chaque personne.
Ouais, c'est vrai.
Il y a quand même, il y a une vraie réflexion à amorcer de ce côté-là. Quand on va voir un avocat ou une avocate, mais parce que la fonction d'avocate, avocat, même si c'est une femme, elle est bien ancrée quand même du côté énergie masculine, bah là, pareil, ça choque personne qu'un avocat, il soit à 200, 300 euros de l'heure et on le paye. Mais un psy, il te sauve la vie autant qu'un avocat. Hein.
C'est
Mais
sûr.
là, un psy, ça paraît hyper bizarre de payer 200 euros une consultation. Ah non, il faut que ça soit gratuit, il faut que ça soit la sécu. Voilà. Donc c'est aussi une question de représentation et on a le droit en tant qu'adulte à un moment donné de faire le point aussi sur quelles sont les représentations que j'ai par rapport à l'argent et au fait de gagner de l'argent et qu'est-ce que j'ai envie de croire bien pour moi? Voilà, est-ce que je peux m'arracher un peu à ce conditionnement-là et à dire bah ouais mais en fait non mais en fait moi je fais du bon travail. Je change vraiment la vie des gens, bon, je parle pour moi. Bah donc en fait ça a une valeur. Bah donc c'est normal que je sois très bien payée pour le faire.
Moi, j'avais le même problème aussi en tant que photographe pour évaluer mes prix. Il y en a, c'était bah, c'est du vol à ce prix-là. Enfin, juste pour appuyer sur un bouton, demander autant, c'est quand même bizarre. Enfin, moi, même mon beau-père m'avait dit, ah bah ça va, tu te fais pas chier, quoi. Bah non,
Ben
en
ouais.
fait, c'est la valeur de mon travail, c'est ce que
C'est la
j'estime
valeur de ton
valoir,
travail.
donc je
Et
suis
c'est
désolée, mais
et
ouais.
enfin moi je sais que bah tu vois c'est marrant parce que moi je sais que les photographes de mon mariage bah c'était un vrai budget mais j'étais genre très heureuse de payer ce prix-là. Et parce qu'en plus, c'était à la hauteur de la qualité déjà de présence et humaine de ces deux femmes-là et de la qualité des photos que j'ai eues derrière, qui sont quand même un souvenir qui reste toute ta vie, quoi.
Ça
Et
maintenant.
donc ça a de la valeur. Une fleuriste qui fait des bouquets magnifiques, enfin, qui met sa touche, et tout, ça a de la, tout a de la valeur en fait. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand je vois voilà des entrepreneurs. Sortons du coaching et de la psy un peu, mais tu vois que j'ai des entrepreneurs qui sont joailliers, joaillières, des fleuristes, des graphistes et des architectes. Voilà, j'ai des clientes architectes et qui n'osent pas fixer les prix ou qui minimisent, qui dévalorisent leur travail. Enfin voilà, je me dis, mais il n'y a aucune raison, quoi. Aucune raison. Ça n'a pas moins de valeur, ce travail-là n'a pas moins de valeur qu'un autre travail. C'est apporter de la beauté aussi dans la vie des gens, bah c'est tout aussi important que de réparer une bagnole.
C'est sûr.
Non mais c'est vrai, pour moi il y a pas de hiérarchie en fait dans les métiers. Ils ont tous une utilité, on a tous une mission, on a tous quelque chose, et après derrière on a acquis des compétences, on a travaillé dur, on a notre expérience de vie, et c'est ça aussi qu'on fait payer dans nos prestations. C'est pas que le temps passé, c'est pas au poids, c'est pas que le temps passé ou les photos que tu fais ou le temps que moi je peux passer avec des gens ou le bouquet d'une fleuriste. Non, c'est les années d'expérience, c'est les formations qui ont été faites, c'est tout ça en fait. C'est tout ça aussi qu'on fait payer, qui font que bah, on est les professionnels qu'on est aujourd'hui et que les gens ont envie de travailler avec nous. Donc ça a de la valeur.
Exactement. On est d'accord.
Mais c'est vrai que cette relation à l'argent, mais enfin, je pense que pour le coup, ce qui serait d'utilité publique, ben, ça serait que assez rapidement, les gens puissent travailler sur leur relation à l'argent. Parce que, mais est-ce que après, alors moi, je suis pas trop, j'aime pas rentrer dans les histoires complotistes et machin, mais force est de constater que je pense que si faudrait pas qu'il y ait trop de monde à l'aise avec l'argent non plus. Hein. Je pense que
Non,
ça en emmerderait certains. Donc c'est ça. Donc je pense qu'il y a aussi des gens qui quand même ont des groupes qui ont tout intérêt à ce que les gens croient qu'ils sont voilà qu'ils n'ont pas accès à ça en fait. Mais moi je pense qu'on peut potentiellement avoir tous accès à ça, vraiment. Et je le dis d'autant plus détendu que pour le coup, enfin moi j'ai connu dans ma vie vraiment des périodes de précarité financière. Et donc on peut pas me dire oui mais c'est facile pour toi, t'as toujours eu de l'argent, t'as une famille qui a de l'argent, qui a machin, donc non. Et j'ai connu des périodes de précarité financière, voilà, où finalement bah c'était dur financièrement, mais je me sentais très riche. Je crois que je me suis toujours sentie très riche parce que encore une fois, la richesse, elle se mesure pas à ce qu'il y a sur notre compte en banque. Bien évidemment, tout ce que je dis ne s'applique pas pour des personnes qui pourraient nous écouter et qui sont vraiment dans une mer de noir et qui n'ont pas de lieu pour dormir et rien à manger. Mais a priori, s'ils peuvent écouter un podcast, c'est qu'ils ont un téléphone ou un ordinateur, donc c'est qu'ils sont pas non plus complètement SDF en précarité totale. Mais donc je pense que vraiment c'est aussi un état d'esprit à cultiver et c'est un vrai travail de rupture avec son histoire. Il y a des choses nécessairement dans ses lignées, dans son histoire, dans ses traumas à switcher déjà pour y croire en fait, pour y croire, pour se donner de la valeur, pour comprendre qu'on a une valeur, qu'on mérite. Il y a ce truc de mériter. Et on mérite pas juste parce que on a fait le bon petit soldat et qu'on a bien fait. Ça marche pas. Non, on mérite, c'est notre droit de naissance, en fait. On mérite d'être heureux, on mérite d'avoir de l'amour, on mérite d'avoir de l'abondance, on mérite d'être riche, quel que soit, voilà. Et aussi d'avoir de l'argent. Et aussi d'avoir de l'argent. C'est pas réservé qu'à certains. Après, bien évidemment, c'est sûr que tu as des gens qui utilisent leur argent pour prendre le pouvoir sur les autres, qui utilisent leur argent à des fins qui sont pas jolies jolies, qui gagnent leur argent de manière pas jolie jolie non plus. C'est vrai, mais c'est pas parce qu'il y a des personnes comme ça qu'il faut diaboliser l'argent. L'argent, c'est une énergie qui circule. Hein. C'est ce que je dis tout le temps. Il y a une personne, quand j'ai posté mon fameux post là, qui a fait beaucoup réagir. Donc, ça montre à quel point la question de l'argent est inflammatoire chez beaucoup de gens. Mais qui m'a dit, de manière très ironique, il m'a dit, mais c'est fou comme l'argent fait changer les gens. Donc, ça voulait dire, ouais, t'as changé. Et en fait, je lui ai répondu, mais non, l'argent ne change pas les gens. En fait, l'argent amplifie ce qu'on est déjà. Si t'es un connard, bah avec de beaucoup d'argent, tu vas devenir un super connard. Et si tu es quelqu'un de généreux, avec beaucoup d'argent, bah tu vas devenir encore plus généreux, tu vas faire encore plus de bien autour de toi. Donc l'argent ne change pas les gens, genre c'est pas l'argent qui a ce pouvoir-là. L'argent va catalyser ou va exacerber des traumas ou des traits de caractère ou des traits de personnalité qui étaient déjà là. Et donc on peut gagner de l'argent et avoir même beaucoup d'argent et être une très bonne personne.
Oui, c'est pas
Et faire le bien autour de soi
incompatible.
et c'est pas incompatible. Moi je sais franchement que voilà, je suis pas riche, enfin je suis pas si je suis riche de plein de choses, mais financièrement je fais pas partie, enfin, je dis pas ultra riche, je suis pas non, pas du tout. Pas du tout, je gagne très 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 bien ma vie et le fait de générer de l'argent en fait me permet de d'aider énormément de monde, mais à commencer déjà par ma famille. C'est-à-dire que vraiment, parfois, moi, je me dis, heureusement que je gagne beaucoup d'argent quand même et que je gagne bien ma vie, parce que sinon, waouh, je sais pas comment on ferait pour mes parents en premier lieu, nos enfants et leur offrir, voilà, mais c'est les amis aussi, et c'est après cet argent-là, c'est de donner à des associations, c'est de récupérer du temps parce que je suis pas dans cette course de me dire il faut que je travaille comme une dingue, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Bah du coup j'ai du temps et j'ai du temps aussi à donner, voilà, vraiment à donner à des associations, à donner à des personnes qui ont besoin de mon aide et que je pourrais pas m'offrir ce temps-là, bah si je travaillais dans un bureau toute la semaine et à gagner et que je gagnais 1 500 euros ou 2 000 euros par mois. C'est évident, je pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui en aide, en impact sur le monde, en projet aussi. Je pourrais pas investir dans des projets qui, à mon sens, transforment la société, transforment les personnes, donc transforment la société. C'est aussi grâce à cet argent-là et je suis très heureuse de pouvoir avoir cet argent-là pour pouvoir faire tous ces trucs-là.
C'est aussi une
Donc
façon de
c'est
contribuer aussi.
mais c'est aussi une façon de contribuer et c'est pas mieux, moins bien, c'est aussi une façon de contribuer et moi je suis très contente de le faire, je suis très contente de bosser avec des collaboratrices où je me dis waouh, je négocie même jamais les prix et je les paye direct et je les paye très bien et je les paye très bien. Parce que ça va aussi avec ma mission, c'est-à-dire que moi je me dis à chaque fois que voilà que ma collaboratrice principale, bah, je la paye très bien, ben je me dis c'est sa famille qui en profite, c'est elle-même qui en profite, c'est elle aussi qui peut impacter et qui peut contribuer à son tour et qui peut, c'est en fait c'est vertueux, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Après oui c'est vrai, hein, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui redistribuent pas, mais c'est pas parce qu'il y a des gens comme ça que du coup il faut diaboliser l'argent et dire ouais, c'est pas bien d'en gagner, je préfère rester pauvre. Hein. La pauvreté, ça rend pas plus gentil. Hein.
Non, c'est sûr.
Mais il y a du boulot.
Il y a du boulot, ouais, c'est clair. Est-ce que justement ce rapport ambigu à l'argent peut nous empêcher de déployer notre posture de leader?
En fait, je pense que c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est parce qu'on ne développe pas aussi notre posture de leader, notre puissance intérieure, que, on a du mal à gagner de l'argent. Aussi. Mais comme la bonne nouvelle, c'est que quand on travaille l'argent ou quand on travaille la posture de leader, c'est le même travail de fond qu'il faut faire. Donc en fait, tout se travaille en même temps parce que on en revient toujours à la même chose, c'est son histoire, son roman familial, ses lignées, ses blessures, ses traumas. Regagner du terrain en fait, c'est reprendre les clés de sa bagnole et regagner du terrain. Et plus je vais gagner de terrain sur moi-même, plus je vais reprendre de la puissance, plus forcément il y a des choses que je ne faisais pas avant que je vais m'autoriser à faire. Donc je vais ouvrir des nouvelles opportunités. Je vais voilà, c'est tout ça en fait. Et les deux sont liés. Les deux sont vraiment liés.
C'est clair. Merci Audrey pour tout ce que tu nous as partagé. On arrive à
Merci
la fin
Pascaline.
de
Mais oui, mais
l'épisode.
c'est un plaisir.
Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose? Est-ce que tu as envie de partager quelque chose qu'on n'aurait pas partagé?
Bah, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Non, peut-être de donner envie à nos auditeurs de faire ce travail-là, même s'il est inconfortable. Parce que c'est gagnant pour soi, mais c'est gagnant pour les autres. Ça change tellement de choses, en fait. Ça change vraiment. Et de pas, c'est pas parce qu'on a cru à une histoire pendant X années qu'on n'a pas le droit d'en changer. On a le droit de changer d'histoire. On a le droit de choisir ce qu'on a envie d'écrire. On a le droit de, voilà, ça demande d'aller mettre un peu les mains dans le cambouis, quand même, un peu beaucoup. C'est pas confortable, mais c'est tellement libérateur. Voilà. Je veux donner un message d'espoir. Pour avoir accompagné des centaines et des centaines de personnes, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, donc des centaines et des centaines de personnes, et pour avoir l'exemple de moi-même déjà, de ma vie, et notamment en tant que personne hypersensible, moi je trouve qu'on a une force, mais incroyable, et une capacité de résilience vraiment incroyable quand on est hypersensible, quand on est haut potentiel, quand on est atypique. Parce que sinon, on n'aurait pas survécu.
C'est sûr.
Donc, vu qu'on a survécu, ça prouve notre force. Et il faut pas croire le contraire. Il faut pas se laisser embobiner par d'autres qui finalement n'ont pas intérêt à ce qu'on se développe et à ce qu'on fleurisse. Donc, vraiment d'être convaincu de ça et que ça justifie vraiment d'aller faire ce travail-là pour s'épanouir, pour réaliser ses rêves, pour s'autoriser. Il est jamais trop tard. Vraiment, il est jamais trop tard. Il est
J'allais te
jamais trop
poser la
tard.
question, est-ce qu'il y a une date limite?
Non, il n'y a pas de date limite. Moi, je pense que mon plus vieux patient que j'ai eu, il avait 77 ans, la première fois qu'il est venu me voir. Et il voulait me voir pour apprendre à mieux se connaître et à se comprendre et à comprendre pourquoi il était sensible et pourquoi il était décalé et tout ça. Et on a fait vraiment tout un travail autour de son hypersensibilité. Bon, il s'avère qu'il était haut potentiel, donc ça lui a fait un choc parce que à 77 ans, j'imagine bien qu'il a revisité toute sa vie avec déjà beaucoup de regrets au début. Et je lui ai dit, mais en fait, il est jamais trop tard. Il a dit, bah, c'est pour ça que je suis là, parce qu'en fait, je me dis, pour le temps qui reste, eh ben, j'aimerais que ça soit chouette. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Et je sais que quelques années après, il m'a envoyé des nouvelles. Il allait super bien. Il avait même retrouvé une compagne, alors qu'il était veuve depuis quelques temps. Et il s'éclatait dans sa vie. Bon, il est décédé maintenant parce que c'était il y a longtemps. Mais il s'éclatait dans sa vie. Et il m'a dit, enfin voilà, 77 ans, même s'il a eu 5 ans, bah, ça vaut le coup.
Ben, ça vaut le coup,
Même
voilà.
pour 5 ans, ça vaut le coup. Mais même pour un jour, ça vaut le coup. Même s'il restait qu'un jour, ça vaudrait le coup. Donc, pas perdre espoir et vraiment s'accrocher. En tout cas, ça se travaille. Donc, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a aucune fatalité. Il n'y a que du travail.
Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave.
Bah, merci.
Ça va me revenir. Si, je voulais te parler de ton. Voilà. Ça tombe bien, en ce moment, tu as rouvert aussi ton programme Money Flow si on a envie de
Oui,
travailler notre relation à l'argent. Tu peux nous en parler un petit peu?
c'est sympa de le mentionner. Oui, mais c'est un programme en fait que j'avais donné il y a 2 ans, que j'avais donné en direct, en live, et que j'ai enregistré dans les conditions donc du direct. Et en fait, ça fait 2 ans que régulièrement je le repropose parce qu'il est super. Donc t'as des modules, il y a 5 modules avec vraiment des thèmes de travail, de ce travail dont je parle, là, de ce travail intérieur. Donc là, vraiment. Par rapport à l'argent, hein, à la relation à l'argent, où on va vraiment travailler en profondeur. Donc avec, il y a de la réflexion, des prises de conscience, mais il y a aussi vraiment des hypnoses de transformation, transformationnelles, des questions d'introspection. Enfin, il y a tout un travail. Là, pour le coup, on est dans de la, c'est thérapeutique, hein. Il y a tout un travail thérapeutique comme ça sur 5 modules. Voilà, à faire à son rythme. Et il est vraiment chouette. Enfin, tous les retours que j'ai. Même tu vois de gens qui l'ont fait comme ça en autonomie m'ont dit que ça fonctionnait très 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 bien en autonomie aussi Bah parce qu'en fait, c'est un travail où on va directement parler avec les ressources inconscientes et notre sagesse intérieure. C'est ça qui fait le job, en fait. Voilà, donc money flow, ouais.
Super.
Je suis très contente. Non, mais je suis très contente de pouvoir le proposer régulièrement parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, on ne trouve pas beaucoup, beaucoup de propositions par rapport à vraiment ce travail thérapeutique de la relation à l'argent.
Ouais, c'est vrai. Et pourtant, c'est essentiel. Je pense que à partir du moment même, enfin, on se lance dans l'entrepreneuriat, ça devrait être obligatoire, entre
Ça
guillemets.
devrait faire partie du package.
Voilà
Bah, c'est, bah
ça.
oui, mais moi, c'est ce que je mets dans mon accompagnement sur le,
Ouais.
vraiment sur l'entrepreneuriat. Ça fait partie du package
Non,
direct.
c'est là.
Parce que c'est la, enfin, c'est la base, quoi.
En tout cas,
Super,
merci beaucoup,
merci.
Audrey, pour tout ce que tu
Merci
nous as
beaucoup.
partagé.
C'était une joie d'échanger avec toi et de, voilà, de transmettre un petit peu de ce qui m'anime au
Bah
quotidien.
pareil, c'était un vrai plaisir
Merci.
de partager ce moment avec toi aujourd'hui.
Merci pour ta confiance et bisous aux auditeurs.
À bientôt, Audrey.
À bientôt. Salut Pascaline.
Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et surtout un maximum d'étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante. www.pascalinemichonphotographe.com dans la rubrique podcast. Le podcast est aussi bien sûr disponible sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravie. Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, là où je suis la plus présente. Le compte, c'est tout simplement à fleur de peau podcast avec des tirets vers le bas entre chaque mot. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!